Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Ça se passe le samedi et c'est en France. Ça s'appelle donc Samedi en France. Madame, monsieur, bienvenue à vous tous. Amateurs de sites méconnus qui méritent bien sûr votre curiosité dans un instant. Alors, vous allez découvrir un site mais vraiment insolite. Juste après, un musée entièrement dédié à la musique, à toutes les musiques, hein, toutes les musiques populaires. Et puis ensuite, un site en pleine nature pour une micro-aventure. Qu'est-ce que c'est qu'une micro-aventure? Ben, c'est une grande aventure, mais qu'on appelle micro parce que ça ne dure pas très longtemps. C'est ludique, c'est instructif. Et puis, pour finir tout à l'heure, une balade. Alors là, c'est une balade originale entre terre et ciel. Mais tout de suite avec Gavin Clementer-Ruiz, un voyage au centre d'une grotte. Alors, laquelle? Parce que franchement, en France, on a le choix, hein. Et celle-là est unique. Oui, mais pourquoi elle est unique, Gavin?
Bonjour, William. D'abord, parce que vous serez dans un endroit comme vous n'en avez jamais vu. Si, je vous jure, William, que vous ne l'avez jamais vu. C'est la grotte de la Salamandre. Elle a été découverte en 1965.
Ça, c'est incroyable, ça.
Ouais, c'est pour ça qu'elle est unique. Hein.
Non, mais quand on parle de grotte, on se dit, bon, bah, c'est la grotte Chauvet, il y a je ne sais combien de milliers d'années. Non, pas du tout.
Eh ben non, mais en même temps, celle-ci, elle est à Méjane-le-Clap.
Ouais.
C'est dans le département du Gard, c'est pas très loin d'une autre grotte.
Ah ben voilà.
La grotte Chauvet, numéro 2. Et on est à une demi-heure d'Alès, à peu près. Mmh. Alors, vous allez descendre 60 marches. Mmh. C'est précis. Vous allez pénétrer dans une immense salle qui fait 100 mètres de diamètre et 30 mètres de haut. Imaginez, 30 mètres de haut. Mmh. Et là, votre visite va se faire, bah, pour commencer, en musique, en lumière. Il y a des stalagmites autour de vous, des stalactites aussi, qui habitent ici toute l'année.
Là, je suppose que le parcours est balisé. Alors, c'est sombre ou c'est extrêmement éclairé? Vous avez dit lumière, oui, bien sûr.
Bah, c'est sombre et c'est éclairé, c'est ça qui est bien. Mais vous allez voir, vous allez pouvoir descendre à pied.
Oui.
Et là, toute l'originalité du lieu, c'est qu'on peut la visiter à pied, bien sûr, mais aussi par la voie des airs.
Ah oui, vous avez dit que ça fait 30 mètres de haut. Bon, je vois à peu près, mais bon, ça mérite une explication. Nous sommes en ligne avec Bérénice Berthelot, qui est directrice de la grotte. Bonjour Bérénice.
Bonjour William.
Alors, on peut donc, alors je dis promener, alors je mets des guillemets, hein, on peut se promener dans les airs tout autour de la salle. Comment ça se passe? On est dans une nacelle?
Alors, on est plutôt dans un espèce de harnais que nous, on appelle un cocon. Mmh. On s'allonge sous le ballon, donc on se faufile, et après on tend les bras,
oui.
On attrape des ailes, et on s'envole.
Non, on s'envole.
On s'envole à bord de l'aéroplume. C'est une conception assez unique qui a été faite par Aérosculture et
ouais.
Jean-Pierre David. Mmh. Donc, il avait envie de... un peu le mythe d'Icare, et voilà, et donc il a construit l'aéroplume,
ah oui.
Et on a découvert ça, il habite juste à côté de chez nous, et on a pu le mettre dans la grotte,
ah oui.
Et on fait un vol de à peu près 20 minutes.
Oui, mais c'est individuel, on ne peut pas monter à plusieurs dans l'aéroplume, c'est...
Non, on monte tout seul, parce que le ballon, il fait à peu près 100 kilos,
oui.
Et donc il peut porter avec il peut porter 100 kilos, donc
oui.
Avec le harnais, c'est une personne 85 kilos maximum.
D'accord.
Sinon il décolle pas.
Et on se balade, vous faites faire à Icare pour la circonstance, vous lui faites faire une balade qui dure combien de temps alors à l'intérieur de la grotte à peu près?
À peu près 20 minutes.
20 minutes, ah oui.
Voilà, 20 minutes où on va. Slalomer entre les stalagmites.
Ouais. D'accord. Alors, il y a une mise en scène, bien sûr. Gavitz, à l'instant, parlait de lumière et de musique. Moi, j'ai une photo, là. C'est amusant parce que ça rend tout ça un peu féerique, je trouve, non?
Eh bien oui, c'était un peu le but. C'était de rendre ce monde souterrain magique. Qu'on ait l'impression d'avoir des petites fées qui sortent de derrière les concrétions. Et ça permet aussi de mettre nos géants de cristal. Donc, on a vraiment des concrétions immenses, de les mettre en perspective et de voir l'immensité de la salle.
Mmh, d'accord. Mais il y a un écho parce que... Non, oui, je ne me rends pas bien compte.
Alors, il y a un écho si on crie, mais on a une acoustique
oui.
Formidable dans la grotte. Donc, on a mis en scène avec des points musicaux et ça permet de passer un bon moment avec un guide
oui.
Passionné.
Alors, il y a un belvédère, il faut nous expliquer où il est. Et est-ce que c'est comme un balcon qui domine un peu la grotte pour mieux la voir?
Alors, c'est exactement ça. Alors, le belvédère... ça a été en fait le point de départ du projet, c'était oui. de pouvoir permettre aux personnes à mobilité réduite de oui. pouvoir visiter la grotte ou au moins de la découvrir.
Ah, très bonne
donc,
idée.
Voilà. Donc, dans le circuit, quand on fait la balade normale, la visite d'une heure, c'est la fin de la visite.
Ah, c'est
donc, ça
mm-hmm.
permet d'avoir une vue panoramique de tout ce qu'on a vu de près.
Mm-hmm.
Et pour les personnes à mobilité réduite, comme on y accède par un petit tunnel de 70 mètres à plat, mmh. entièrement sécurisé, ça permet aux gens qui sont en fauteuil ou qui marchent très mal, qui ne peuvent pas descendre de marche,
oui.
d'avoir une vue panoramique
et
de
oui,
la grotte.
Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on a des explications pour dire où on est, et dans quelles circonstances elle a été découverte, ce qu'on y trouve, etc., etc.
Oh bah bien sûr, déjà quand on fait la visite guidée, c'est avec un guide passionné, mmh. voilà, donc qui explique aussi bien la découverte que la formation, un petit peu de géologie. On a aussi des visites thématiques, donc des fois ça peut être un peu drôle, un peu mmh. effrayant, comme là on a eu à Halloween.
Mmh.
Et voilà, et donc ça permet d'avoir toutes les explications et puis répond aux questions quand on en a envie de plus.
Et tout à l'heure, je m'étonnais avec Gavitz, Clément Terwies, on se disait mais 1965, mais comment ça se fait que ça a été découvert si tard? Elle était vraiment cachée, planquée même à ce point?
Alors, il faut vous imaginer qu'on est en pleine garrigue, donc il y avait beaucoup d'arbres autour.
Et oui, végétation.
Végétation. Donc, a priori, il était connu, le trou, mais c'est 50 mètres de descente, donc
il fallait y aller.
À un moment donné, voilà, il fallait y aller, donc personne n'avait osé y aller peut-être avant. Et les premiers, des jeunes usétiens, sont descendus en 1965
ah bon
par un rappel de 50 mètres, et après ils remontaient 50 mètres.
Oui.
Et pendant très longtemps, la grotte a été utilisée que en spéléologie.
Oui.
Voilà, c'était un P50 connu dans le coin.
Oui, mais on n'en faisait pas un lieu de visite, quoi. C'était presque pour les amateurs de spéléo, c'est tout. Mais là, maintenant, tout le monde peut y aller, quoi.
Eh bien, disons que mes deux patrons sont amateurs de spéléologie.
Ah ben, voilà.
Et en 2010, ils ont eu l'idée de l'aménager, de percer deux tunnels pour que tout le monde puisse le visiter. C'est la grotte de la Salamande.
Voilà pour la grotte de la Salamande. Merci pour cette visite rapide. Mérinis, bonne journée. Au revoir.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Alors, Gavit, combien nous coûtera la promenade?
Alors, pour la visite guidée, William, comptez une heure à peu près 13,50 € pour un adulte. Et pour la descente en rappel, comme autrefois,
oui, elle a expliqué ça.
Ça coûte 43 €. Et il faut quand même avoir 12 ans minimum. Et si, au final, vous voulez profiter de cette aéroplume, c'est un peu plus cher. 83 €.
On est allongé comme ça, on vous met des ailes.
Et vous battez. Et vous avancez tout doucement.
Ah
bon, ça.
C'est grâce à vos bras qu'on avance.
Que
alors.
Vous avancez, exactement. C'est un peu c'est magique, en effet. C'est le rêve d'Icar qui se réalise pour 83 €.
Ah, ça, c'est un tout petit peu plus cher. Bon, avant ou après la visite, on peut se procurer des produits locaux?
Bien sûr, vous en trouverez à la grotte, bien directement. Mmh. Sinon, il y a la nougaterie des fumades à Allègre-les-Fumades. C'est à 20 minutes. Et là, vous allez pouvoir faire le plein de nougat avec des amandes torréfiées sur place. Je ne vous dis que ça.
Mais c'est formidable, ces noms-là. On a l'impression qu'on les a inventés pour les besoins du roman, mais pas du tout. Ça s'appelle les fumades ou Allègre-les-Fumades. Alors, pour plus de renseignements, vos réseaux sociaux habituels et puis surtout Europe1.fr.
Samedi en France sur Europe 1.
Voici un autre site maintenant, pas assez connu, qui mérite votre attention. Pour cela, avec Gavitz, Clémenté Ruiz, curieux par vocation et par profession, désormais, nous vous proposons la visite d'un musée qui retrace toute l'histoire de notre musique populaire. Alors Gavitz, ça se passe où et on y écoute quoi au juste?
Eh bien, je vous emmène, William, mesdames et messieurs, dans la sous-préfecture de l'Allier, qui se trouve, comme vous le savez,
oui,
à Montluçon, en Auvergne, entre Guéret et Vichy. Et là, nous allons visiter un musée hors du commun, vous l'avez dit. Je serais tenté même d'appeler ça plus qu'un musée. C'est une expérience musicale qu'on va vivre. Alors déjà, il y a le site. C'est un bâtiment qui est situé au centre de la vieille ville de Montluçon, la vieille ville médiévale, à côté de l'église Notre-Dame. Alors, c'est un ensemble qui est recouvert d'une toiture en bronze. J'essaie de le décrire au plus juste, dont l'architecture est vraiment déstructurée.
Mais c'est un bâtiment moderne.
C'est un bâtiment hyper moderne, tout en biais, en quinconce. Et ça, déjà, c'est très, très original.
Comment s'appelle ce musée? Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est bien de le redire. Et qu'est-ce qu'on y entend? Puis, il s'agit de musique. Hein.
C'est ça. Ça s'appelle le MUPOP. Alors, ça s'écrit MUPOP, tout attaché avec le P de pop. la première lettre qui commence avec, en majuscule, MUPOP, c'est l'abréviation de Musée de musique populaire. Et c'est à l'intérieur qu'on va retracer toute l'histoire, avec un grand H cette fois, encore une fois, à travers la musique, toutes sortes de musiques. Alors, il y a la musette, il y a le rock, il y a la fanfare, et il y en a bien d'autres
oui,
encore.
Oui, mais on remonte très loin, donc.
Exactement. D'accord. On remonte dans le temps et à travers l'histoire de la musique.
Ok, alors c'est une visite, vous l'avez compris, avec écouteurs sur les oreilles, bien sûr, mais vous découvrirez, alors, c'est bien aussi, énormément d'instruments. Ça, c'est pas mal.
C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a le son, mais il y a aussi l'outil qui permet de faire le son, et vous en avez plusieurs dizaines parmi des pièces très très rares que vous allez pouvoir observer.
Alors, il n'y a pas de piste de danse, en tout cas pour l'instant, mais c'est vrai que selon les époques, on est tenté de bouger un peu, non?
Carrément, on a envie de remuer le bas des reins. C'est de la musique pour les pieds, comme
vous
le disait...
Vous voulez dire les fesses, c'est ça que vous voulez dire. Vous êtes pudique. Hein,
oui, bien. Oui, je suis assez pudique. C'est la musique vous vous souvenez de cette chanson, la musique pour les pieds, comme
oui.
disait Jean-Jacques Goldman. C'est une musique qui donne vraiment envie de danser. Alors, on est avec son écouteur sur la tête, on passe d'une salle à l'autre, on appuie sur tous les boutons et vraiment on a envie de se trémousser.
Alors, moi, c'est tel que vous le décrivez, je vois ça comme un super karaoké avec, oui, c'est ça, avec un jukebox dans chaque salle.
Presque.
Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite avec Mélanie Joannin, responsable de la communication au MUPOP de Montluçon. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Alors, finalement, ce lieu, je ne sais pas, moi aussi, j'ai l'impression que c'est une sorte de grande boîte à souvenirs. C'est un peu ça ?
Oui, c'est une boîte à souvenirs. On va de salle en salle et on remonte le temps.
Mmh. Et on commence quand, la musique populaire ?
Ah, c'est le début, on va dire la fin du XVIIIe siècle.
La fin du XVIIIe.
Et on monte jusqu'aux années 90.
Comment vous définiriez ce qu'on appelle la musique populaire ? Parce qu'entre toutes les musiques, il a fallu faire un tri.
Bien sûr. Alors, la musique populaire, c'est plutôt la musique qui fait danser.
Ah, bon, on est bien
d'accord. C'est la musique qu'on a dans la tête.
Mmh.
Généralement, quand on parle de musique populaire et qu'on écoute des titres populaires, les gens dansent.
Oui, c'est ça. C'est une musique. Vous savez, ces refrains dont on se dit, quand on les a dans la tête, on les a pour la journée, quoi.
C'est ça.
C'est ça.
Mais quand on remonte au 18e, il y a des choses qu'on ne connaît pas du tout. 18e, 19e, il y a des choses qu'on ignore, nous.
Ah, bien sûr. Alors, la fin 18e, c'est surtout dans les campagnes, le monde rural, comment les musiques étaient amenées. Alors, les musiques populaires, ce n'est pas forcément les musiques classiques, on est bien d'accord. Mm-hmm. Et c'était surtout des musiques qui étaient dans les champs, celles, les musiques qui motivaient pour pouvoir travailler avec les bêtes. Et on se rend compte que ces musiques-là, elles étaient très dansantes. C'était vraiment des moments qu'ils prenaient à cette époque-là pour vraiment amener de la bonne humeur et de l'entrain au travail.
Ah ben ça, c'est curieux parce que moi, cette musique populaire-là de cette époque-là, je la voyais au moment de mariage, les baptêmes, les fêtes, vous savez, la fête de la Saint-Jean, etc. etc.
Les repas. Mais c'était aussi pour faire avancer le bétail.
Ah bon, ça, je ne savais pas. Quand on veut faire avancer le troupeau.
Vous le verrez.
Ah, c'est curieux ça. Pour faire avancer les bœufs, on chantait,
on
jouait.
Ça mettait du cœur à l'ouvrage.
Ah, ça alors. Alors, du coup, là, vous avez créé plusieurs sortes d'ambiances. Il y a quoi ? Il y a ça, par exemple. Il y a la fanfare. Et puis, il y a même les scopitones.
Eh oui. Alors, les scopitones, tout le monde ne connaît pas, mais
non.
C'est quand même l'ancêtre des clips, exactement.
Ouais, ouais.
On filmait les chansons, et puis elles étaient diffusées sur des grosses télés, donc on en a un. Alors, c'est plutôt rare, parce que le nôtre fonctionne vraiment.
Ah bon ? Moi, je me souviens de ça. Hein. Vous savez, on avait ça dans les cafés.
Tout à fait, c'était installé dans les bars.
C'était une grosse machine avec un écran. Et Claude Lelouch, qui a été un des précurseurs pour tourner ça, moi, si vous n'avez jamais vu Claude François qui danse dans la neige, vous n'avez rien vu du scopitone. C'était vraiment formidable à l'époque. Et on venait que pour ça, hein, dans les cafés. Nous sommes dans les années 60 à peu près, c'est ça ?
On est dans les années 60, oui.
Ah,
donc tout est en noir et blanc sur les films que nous avons.
Ouais.
Et c'est vraiment de la danse rock de l'époque. Et on a le son et l'image des scopitones. Ça plaît beaucoup.
Et quand je dis que vous avez recréé des ambiances, quoi, il y a ambiance fanfare aussi, c'est quoi ça ?
Alors, on a l'ambiance fanfare avec tous les instruments qu'il y a dans une fanfare. avec c'est une ambiance qui est on est en immersion et toutes les 8 minutes, on a une fanfare qui se déclenche avec tous les instruments qui démarrent pour montrer une vraie fanfare.
D'accord. Alors, quand on passe d'une pièce à l'autre, il faut être face à la musique pour pouvoir en goûter tous les sons, je suppose. Il y a quoi, 5, 10 personnes ? Combien vous êtes à écouter ça à chaque fois ?
Alors en fait, les écoutes sont des écoutes individuelles parce qu'on a un casque, on a 150 systèmes d'écoute. Ah. On a 3 spectacles qui se déclenchent les uns après les autres. Mm-hmm. Et les spectacles se déclenchent toutes les 8 minutes dans les salles, aussi bien dans la fanfare que dans le virage électrique.
Le virage électrique ?
Ah, le virage électrique, c'est les années 60. Hein. C'est l'époque justement de Salut les copains.
Bah oui, ici à Europe 1, on connaît. Comme dit l'autre, on a inventé le concept ici.
Eh bien, c'est exactement ça. Eh bien, nous, on a suivi le concept, on a représenté l'époque, Salut les copains, avec les guitares, Eddie Mitchell, les premiers d'Eddie Mitchell, de Johnny, Dick Rivers. Voilà, c'était aussi l'arrivée fracassante du rock et de la guitare électrique.
Bien sûr. Alors, vous avez aussi des pièces rares. On en parlait il y a un instant avec Gavin. C'est parmi les instruments des pièces rares, lesquels, par exemple ?
Alors, on a des pièces de collection, comme le saxophone de Manu Dibango, une guitare de Willy Deville. Mais sinon, on a aussi des pièces plus anciennes, comme certaines vielles à roues, qui étaient des instruments de monastère.
De monastère ? Quoi, les moines, ils faisaient des fêtes la nuit
S'ils faisaient des fêtes la nuit, mais ils s'en servaient,
Mais je ne savais pas que dans les monastères, c'était de la
musique. On jouait de la vielle à roue.
De la vielle à roue, mais ce n'était pas de la musique sacrée, alors c'était une musique populaire, quoi.
Exactement, c'était une musique populaire.
Mmh. Et donc, on se balade comme ça, de musique en musique, différente à chaque fois.
Exactement, avec un casque, on sélectionne ce que l'on veut écouter. Mmh. On est libre d'écouter et de découvrir l'histoire de certains instruments et découvrir certaines, ou redécouvrir
certaines périodes. Oui. Gavis m'a dit qu'il y avait des ateliers, alors ça c'est autre chose, pour expliquer le fonctionnement de certains instruments, c'est ça ?
En fait, on a des ateliers de luthiers qui ont été refaits à l'identique, qui permet d'expliquer quel outil était utilisé, pourquoi ils étaient utilisés, de quelle façon on les utilisait pour les instruments. Comme pour la vielle à roue, on a l'atelier Janza, et pour les guitares Selmer, qui est une courte période au niveau de Selmer, parce qu'on est plutôt sur tout ce qui est saxophone, etc. Et là, on a un atelier Selmer guitare, et il est unique en France.
Pourquoi ? Mais il y a quelqu'un qui est en train de travailler.
Alors non, on explique. Explication sur les instruments, les outils utilisés.
D'accord.
Après, on a des médiatrices qui peuvent montrer et expliquer exactement le fonctionnement.
Très bien. Alors pour abriter telle collection, il fallait de la place quand même. C'est grand votre espace là ?
Alors oui, le musée est grand. Il fait 3300 mètres carrés.
Ah, quand même. Bah, à votre avis, pour donner toutes les indications nécessaires pour ceux qui écoutent, il faut combien de temps pour tout entendre et tout voir ?
À peu près. On va dire que la moyenne est 2 heures.
Ouais, très bien.
Mais réellement, les visiteurs peuvent venir le matin, garder leur ticket et revenir dans l'après-midi. Et on en a beaucoup qui font ça.
Ils ont raison. Merci beaucoup, Mélanie, pour ce voyage au cœur de la musique populaire. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.
Je vous remercie, vous aussi. Au revoir.
Alors, c'est ouvert toute l'année, Gavin ?
Oui, du mardi au dimanche, de 10h à 17h. Comptez 7,50€ pour une entrée. C'est moins cher pour les plus jeunes, donc c'est vraiment l'idéal pour passer une journée.
D'accord. Et si on reste dans la région, on peut dormir sur place ou pas ?
Carrément. Au Grenier à Sel. C'est un hôtel particulier, c'est dans le vieux Montluçon, donc ce ne sera pas très très loin. C'est vraiment plein de charme. Il y a aussi un petit resto. Et le chef, c'est un ancien de chez Michel Guérard. Mmh. C'est-à-dire, là, il faut compter environ 100€ la nuit.
Alors, si vous voulez en savoir plus, ce que je vous recommande, plus de détails sur europe1.fr.
Samedi en France. William Lémergie.
Chaque semaine dans Samedi en France, nous aimons vous faire découvrir des sites ou des spécialistes, hommes, femmes, qui vous offrent leurs connaissances de façon ludique. Alors, double intérêt, vous l'avez compris. À la fois, vous avez un lieu remarquable et puis vous avez aussi l'apprentissage d'un savoir-faire qu'on connaît plus ou moins. Démonstration. Maintenant, avec Gavin Clémenté-Ruiz, encyclopédiste de la France méconnue, s'il vous plaît. Vous avez fait des bouquins, d'ailleurs, sur la France méconnue. Vous avez dû faire ça.
Et puis,
il y a votre magazine sur le Routard, bien sûr. Alors, la France méconnue qui... Alors, s'il vous emmène là, dans les Alpes-Maritimes, c'est pour une randonnée botanique. Rien que l'expression, ça mérite peut-être une petite explication, Gavin.
Alors, c'est assez simple, William. Vous vous équipez confortablement pour la marche, déjà. Des bonnes chaussures. Hein. Pas trop des vêtements qui craignent. Et ensuite, vous allez partir sur les traces avec Camille Aupois. Ce sera votre accompagnatrice de montagne et elle est géologue aussi de formation. Vous allez aller dans la Haute-Roya, c'est à Saint-Dalmas-de-Tende.
J'adore tous ces noms.
C'est beau.
Haute-Roya à Saint-Dalmas-de-Tende. Si vous vouliez imaginer un nom pareil, vous ne pourriez pas, parce que c'est tellement beau comme nom. C'est loin d'une ville connue ?
Bah oui, on est pas très très loin, on est à 50 km de Menton.
Ah.
Et puis c'est pas loin de l'Italie, c'est juste à côté.
D'accord.
Alors, la randonnée, vous l'avez dit, attention, ça dure 2 jours. Vous allez découvrir toutes les plantes sauvages locales, et pour la plupart d'ailleurs, il y en a qui sont comestibles, c'est ça l'intérêt. Mmh. Et vous allez pouvoir apprendre avec Camille comment ensuite peut-être les cuisiner.
Mmh. Alors bon, donc on se balade dans des paysages de rêve, on fait sa cueillette et on déguste, quoi donc, vous allez voir, et tout en savourant les explications de Camille, en plus... C'est tendance, ça, non ?
Carrément. On est en plein dans ce retour à la nature, déjà. Et puis, on fait des micro-aventures. C'est ça, c'est le mot clé en ce moment. C'est le mot tendance dans le voyage, dans le tourisme.
Pourquoi ça s'appelle micro-aventure ? Ça veut dire que ça ne dure pas très longtemps, c'est ça ?
Alors, c'est ça. C'est l'aventure. Pas loin, pas trop longtemps. C'est ça. On ne part pas pendant 15 jours. Là, ça sera l'aventure dans des paysages vraiment très beaux. Ça dure 2 jours. Mm-hmm. C'est une randonnée botanique. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et vous allez, par exemple, faire des pâtes aux orties. Des pâtes vertes.
Ça, vous y avez été, vous ?
Alors non, c'est Camille qui m'a expliqué.
Ouais.
Et là, j'ai vraiment envie de le faire avec elle. Et elle m'a aussi parlé, j'ai hâte qu'elle nous en parle un peu plus après, du beurre manié avec de l'alière. C'est une plante
de
sous-bois.
Doucement, là.
Ouais.
Du beurre manié, M-A-N-I-E.
Oui, vous travaillez le beurre avec une plante des sous-bois qui s'appelle aussi l'herbalaï.
Ah oui, l'herbalaï, d'accord.
Ça vous donne un petit goût assez délicieux.
Vous l'aimez pâté, là, genre manier.
J'essaye. Ça vous tente ou pas ?
Non, mais c'est très réussi.
Ça vous tente ?
J'ai envie d'y aller, bien sûr. Alors, pour en savoir encore plus, nous sommes en ligne avec Camille Aupois, qui a créé cette randonnée. Bonjour, Camille.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à tenter ces aventures-là ? Vous habitiez la région ?
Oui, j'habite la région. J'ai découvert en travaillant ici comme étudiante.
Mmh.
Puis finalement, j'ai laissé les études en découvrant toutes les richesses du territoire et puis le plaisir à vivre ici.
D'accord.
Et donc...
Des études de géologie ?
Oui, géologie et biologie. Je devais être prof d'SVT. Donc finalement, je suis toujours dans la transmission, mais plus de terrain.
Oui, transmission, mais vous êtes devenue promeneuse professionnelle.
Exactement. Et mon idée, c'est vraiment de venir découvrir tous les plaisirs simples et toutes les richesses naturelles qui s'offrent à nous. Et donc la botanique, c'est une de ces richesses-là.
Il y en a suffisamment, de sorte que nous, les amateurs, on ne les voit pas toutes. J'ai été frappé de ça. Mais que vous, les professionnels, vous savez reconnaître. Et donc, on a besoin que vous nous guidiez, c'est ça ?
Bien sûr, et puis bon, l'idée pour les plantes comestibles, donc de se mettre vraiment à manger des plantes sauvages, eh bien c'est de passer 2 jours à d'abord les découvrir et puis après les cueillir, les cuisiner. Et donc au fur et à mesure, on prend conscience parce que la plante, on l'a vue plusieurs fois. Donc c'est vraiment apprendre par le faire et prendre confiance pour pouvoir utiliser soit quand on se balade des plantes.
C'est étonnant parce que vous les cueillez, bon ça va, mais on les cuisine. C'est-à-dire que vous avez tout le matériel, il est dans le sac à dos, les uns et les autres. On s'arrête un moment, on fait un petit bivouac, comment ça se passe ?
Oui, moi j'ai tout le matériel de bivouac et puis tout pour cuisiner en extérieur. Donc voilà, on sort les planches à découper, les demi-lunes, et puis on se met à hacher les plantes. Et puis bon, nous on est gourmands, on aime aussi les bons produits du terroir. Donc on va le beurre manier, le poser sur une petite côtelette d'agneau de producteur local. Quoi.
Ah oui,
voilà.
Oui, parce qu'on ne se transforme pas en chèvre et on broute pendant 48 heures. Parce que je me disais, ouais, c'est un peu austère. Votre truc, là. Ouais, tu as qu'est-ce que tu as fait pendant 48 heures? J'ai fait la chèvre en Haute-Provence. Je suis malade celui-là. Non. Ah ouais, vous emmenez.
Non, l'idée, je peux faire des stages survie, mais l'idée des stages botaniques, c'est pas ça. C'est vraiment d'apprendre à mêler à sa cuisine quotidienne un petit peu de plantes sauvages parce que bah, c'est plein de goûts extraordinaires à redécouvrir. Et puis aussi plein de vitamines, d'oligo-éléments.
Ça agrémente la côte d'agneau. Oui, et on ne mange pas que ça.
Non, pas dans les stages botaniques. On pourrait. Mais ce n'est pas l'idée. Là. C'est vraiment d'apprendre à mêler ça à sa cuisine et puis aux bons produits qu'on a ici, parce qu'on a de la chance d'avoir des très bons producteurs dans la vallée, donc on en profite.
Bien sûr. Vous partez avec ces produits dans votre sac à dos. Mais vous ne dénaturez pas la nature. Ça repousse une fois que tout le monde a brouté.
Ah ben bah bien sûr, ben la nature est abondante, hein, donc
on a de quoi
se faire plaisir, voilà. Ouais. Et puis on apprend aussi comment, quand on arrive quelque part, cueillir un certain pourcentage des plantes pour pouvoir laisser les plantes se reproduire, repartir. Et bien sûr, on est vraiment dans cette idée de préserver, et en même temps, il y a déjà tellement de choses qu'on peut manger sans abîmer. Il n'y a pas de problème. Quoi.
Ok. Et vous dormez à la Belle Étoile? Comment on fait après, une fois qu'on a, on a mangé, on a fait son feu de camp, on a invité Hugo Frey, il vient jouer de sa guitare, et puis après, on dort sur place?
On dort sur place, ouais. On dort en tente, donc on peut être à deux ou individuel dans la tente. Mm-hmm. Après, on travaille aussi avec des hébergeurs locaux quand les gens ils ont envie d'un petit peu plus de confort. Mais moi, j'aime vraiment ce moment où on va dormir sous la tente, comme vous disiez, passer la soirée autour du feu de camp. Ça fait partie de cette petite aventure.
C'est
on n'est pas obligé de prendre l'avion, d'avoir énormément de temps pour vraiment décrocher et se mettre dans ces plaisirs simples et naturels qui sont... Voilà, on regarde le ciel étoilé, c'est des moments forts. Quoi.
On a bien compris, Camille, que le mot avion, c'est une insulte pour vous. Je ne l'ai pas prononcé. Gavis m'a dit tout à l'heure qu'il y avait une activité particulière que vous pratiquez autour de la châtaigne. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ?
En fait, en habitant ici, je me suis installée dans une châtaigneraie, donc je suis devenue agricultrice un peu de fait. Donc là, je sors de un mois de production de crème de châtaigne. Et donc, mon idée, c'est les châtaigneraies ont été abandonnées après-guerre en France beaucoup. Oui. Et donc là, il y a toute une partie de la châtaigneraie qui est complètement à l'abandon. Et c'est d'essayer, en fait, de la remettre donc, avec l'élagage, avec le soin des arbres contre des champignons. Et puis aussi en faisant en sorte de nourrir la terre et d'avoir une terre plus fertile, avec des procédés naturels.
Vous la vendez, vous la commercialisez? Non, c'est pour votre usage personnel. Et c'est
Non. J'ai une grosse production. Je la commercialise dans les boutiques pays de la vallée.
D'accord.
Et puis par les réseaux des AMAP. Je ne sais pas si vous connaissez le système de panier. Mais bon,
c'est quoi le système de panier?
Les systèmes des AMAP, ça va être en fait des groupements de consommateurs qui vont se réunir pour faire des commandes groupées à des producteurs. Ça permet d'être en contact direct producteur-consommateur.
Avoir
d'intermédiaires. Et donc aux personnes qui habitent ici sur la Côte d'Azur, d'avoir des bons produits des montagnes.
Ces micro-aventures, vous en pratiquez combien par mois ou par semaine? Quel est le prochain départ, par exemple?
Le prochain, c'est au printemps.
Ah, d'accord. Ah, oui.
Moi, je suis très saisonnière. Donc là, j'ai fait printemps, été, les randonnées. Je viens de terminer la saison des châtaignes. Pour moi, c'est le moment de repos, là, maintenant. Et de m'occuper aussi du terrain, des arbres. Voilà, repos à la campagne, c'est toujours un petit peu variable.
D'accord.
Mais bon, c'est bien occupé.
À votre voix, je vous imagine très jeune. Je me trompe?
J'ai 38 ans.
Eh bien, vous êtes très jeune. C'est bien ce que je disais. Merci beaucoup.
Voilà, l'idée du projet dont on parlait, là, avec les châtaigneraies, c'est que sur la plateforme Zest de la MNEF, j'ai un projet qui s'appelle Saveur Sauvage et qui permet de partir en randonnée. Et l'argent des séjours de randonnée va servir à acheter une parcelle de châtaigneraies pour que je puisse prendre soin des arbres et alimenter la terre. Donc, voilà. Si ça intéresse les auditeurs, je serais ravie de les accueillir.
Mais ils seront contents de vous retrouver. Merci beaucoup, Camille, pour cette visite. Je vous souhaite bonne route, un bon après-midi. Au revoir.
Au revoir.
Alors, Gamins, la somme, ça coûte combien tout ça?
Alors, vous faites d'une pierre deux coups, vous avez bien compris. Vous aidez à participer à l'achat de la châtaignerie et vous profitez de la nature. Ça coûte 160 euros pour deux jours
ah oui,
par
quand
personne.
Même.
Vous allez pouvoir visiter, vous promener et apprendre vraiment à cuisiner cette nature qui est autour de vous. Donc ça, c'est intéressant.
Mais c'est pas simplement je cueille des petites fleurs. Non. C'est plus complet. Hein.
Et quand vous reviendrez, que vous ferez votre petite beurre-manier, vous verrez, vous serez très fiers. C'est la 160 euros pour deux jours, c'est la version longue. Mais il y a aussi des sorties à la journée. Alors là, c'est 50 euros par personne. Alors, c'est un peu plus réduit, vous ne dormez pas à la belle étoile. Mais c'est quand même, si vous êtes un peu plus pressé, c'est une micro-aventure, on va dire. Et dans tous les cas, c'est par groupe.
Oui, alors combien on est?
Entre 6 et 15 personnes.
Donc ça va,
c'est quand même...
C'est une petite troupe, quand
oui,
même.
Oui, c'est une petite troupe. Pour jouer de la guitare, il faut quand même
du monde. Le feu de bois, oui, bien sûr. Et puis Hugo Frey, il y a à moins de 15, il ne chante pas. Alors, pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de europe1.fr, c'est la meilleure solution. Il est temps maintenant de vous laisser, alors comme on le fait chaque semaine, en compagnie d'une personnalité qui, dans cette émission, vous raconte des souvenirs d'un coin de France où elle a passé une partie de son enfance. Et vous allez voir comme nous sommes originaux, puisqu'on a appelé cette séquence « La France de mon enfance ». Ah, c'est fort, non? Alors aujourd'hui, l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt, qui s'est confié à Daniel Moreau, il a confié ses souvenirs d'enfance dans la belle ville de Lyon, dont il parle très joliment, car il parle aussi bien qu'il écrit cet homme-là.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Éric Emmanuel Schmitt.
Bonjour.
Alors j'ai envie que vous me parliez du petit garçon qui est né à Lyon et qui avait une très belle vue d'ensemble sur cette ville, je crois.
Oui, vous savez, à Lyon, il y a deux collines, la colline qui prie, la colline qui travaille. La colline qui prie, c'est Fourvière, la colline qui travaille, c'est la Croix-Rousse. Et heureusement, moi, je suis né sur la colline qui prie, la colline rêveuse, la colline contemplative à Sainte-Foy-lès-Lyon. Et mes parents habitaient un immeuble dont tous les balcons donnaient sur Lyon, les Monts Lyonnais, les Alpes, un lointain incroyable. Et j'ai passé des heures assis sur ce balcon à regarder le monde qui m'était offert. Et je me dis souvent que si je suis devenu auteur dramatique et philosophe, c'est sans doute pour poursuivre ces grandes contemplations sur le balcon, puisque le monde m'était offert comme un spectacle. Donc j'étais au spectacle, j'étais déjà au théâtre. Et puis j'avais de la distance pour regarder le monde, puisque j'étais sur un point élevé. Et il y avait donc une place pour la philosophie.
Alors, je crois que vous aviez la chance, quand vous alliez à l'école, de traverser des siècles, de traverser presque le temps.
Ça, c'est très lyonnais. On marche dans plusieurs siècles à la fois. Quand j'allais à mon lycée, je traversais le Vieux Lyon, qui est un quartier médiéval et renaissance. En montant la côte, j'apercevais les gratte-ciels de la Part-Dieu, furieusement modernes au loin. Et puis, je passais devant l'amphithéâtre, le théâtre romain, et j'arrivais dans mon lycée qui était du 19e siècle. Donc, vous imaginez le chemin que je faisais chaque jour. Je crois que c'est pour ça que le cycle romanesque auquel je me consacre actuellement s'appelle « La traversée des temps ». En fait, ça doit être un roman lyonnais qui ne parle pas de Lyon, mais profondément lyonnais dans la mesure où, effectivement, mon héros, Noam, va traverser les temps, puisqu'il est immortel, et va nous raconter l'histoire des hommes.
Alors, j'ai envie que vous zoomiez sur quelques lieux comme ça qui vont donner envie aux auditeurs de visiter Lyon, de votre balcon. Quels étaient les petits endroits un peu secrets que vous pourriez partager avec nous?
Vers la place du Terreau, il y a un très beau musée, le musée des Beaux-Arts, qui s'appelle le Palais Saint-Pierre. Et à l'intérieur, il y a une petite cour avec une fontaine, des poissons, des arbres, des bancs. C'est une cour qui sent la violette et la pastille Vichy. puisque c'est une cour où beaucoup de grands-mères emmenaient leurs petits-enfants. Et moi, ma grand-mère m'emmenait là. Et elle sortait toujours de son sac des pastilles Vichy. Et son sac sentait, vous savez, la laque Elnette à la violette. Mmh. Et puis aussi, je pense que ses rouges à lèvres étaient à la violette. Mmh. Alors ça, c'est des souvenirs d'enfance. C'est un très joli endroit. Et après, les collections de peintures sont sublimes.
Petite pastille blanche, il y a les pastilles Vichy, hein, si je me souviens
exactement.
Bien.
Exactement. Hein.
Merci beaucoup Éric Emmanuel Schmitt. Il a parlé il y a un instant d'une œuvre monumentale, je peux le dire monumentale, La traversée des temps. C'est une sorte d'épopée en 8 volumes, s'il vous plaît, qui est publiée chez Albin Michel. Alors là, on est au deuxième tome. Ça s'appelle La Porte du Ciel. Et Éric Emmanuel Schmitt, là-dedans, eh bien, il vous fait voyager dans l'espace puisque, et le temps également, puisque le héros va partir à la recherche de celle qu'il aime. Il va aller jusqu'en Mésopotamie. Et cet homme-là a beaucoup d'imagination et vous l'avez entendu, son langage est assez fleuri. Voilà, bon voyage donc. Merci à Daniel Moreau également. Rendez-vous la semaine prochaine. Alors là, la semaine prochaine, nous serons avec un régional de l'étape. Quelle étape ? En Normandie. Quand je dis régional de l'étape, je ne pense qu'à qui ? À qui ? Quelqu'un qui fait du vélo. Il n'y en a qu'un en France, c'est Michel Drucker, bien
sûr. Voilà.
On ira du côté de Vire avec Michel.
Samedi en France, William Lémergie sur Europe 1.
Dans la dernière partie de Samedi en France, nous vous proposons chaque semaine des lieux touristiques dont on parle assez peu, c'est le principe même de cette émission. Aujourd'hui, une balade hors norme. Parce que vous serez au-dessus des arbres. Ça s'appelle le chemin des cimes, le bien nommé. Et c'est en Alsace. Gavins Clémenté Ruiz, alias le dénicheur, on l'appelle comme ça chez lui aussi, vous dit précisément où ça se trouve. Attention, ne vous trompez pas, Gavin. Attention à la bonne prononciation. Allons-y, jeune homme.
Alors, nous vous emmenons à Drarenbrom-Birlenbach.
Ah, c'est pas mal.
Ça fait deux jours que je m'entraîne. C'est dans le département du Bas-Rhin. On est au milieu d'une forêt qui fait partie du parc national des Vosges du Nord. Mmh. Et c'est là que se trouvent bien des hêtres, des chênes, des pins sylvestres et tout ça bordé de falaises en grès. Alors, c'est absolument magnifique.
Avant de monter, quand on arrive dans le village, on voit quoi ?
Alors, c'est très beau, vous avez l'embarras du choix. Mais ce qui nous intéresse particulièrement de ce que vous allez voir, c'est la passerelle en bois qui fait plus d'un kilomètre de long. Elle est située tout en haut des arbres.
Ah, on y est.
À 23 mètres précisément. Aucune inquiétude, hein. Tout le monde peut emprunter cette passerelle. C'est ça qui est intéressant. Enfants et personnes à mobilité réduite compris.
Ah oui,
c'est
il y a de la place, donc c'est pour rouler avec un fauteuil. Très
exactement,
bien.
Exactement, c'est assez rare pour être signalé. Alors, lorsque vous faites la promenade, vous croiserez une tour de 30 mètres aussi de haut qui offre là une vue. Alors, panoramique, vous prenez encore plus de hauteur. Vous êtes à 360 degrés sur la plaine du Rhin. Mmh. Il y a la forêt noire pas loin, il y a les Vosges aussi. Qu'est-ce que c'est beau. Et à partir de là, vous allez faire la descente à pied et vous allez peut-être aussi pouvoir emprunter le toboggan. Il y a une autre option qui descend sur environ 75 mètres.
Ce qui est original, c'est qu'une fois qu'on est en haut, parce que là j'ai une photo, mais on va vous le décrire, le paysage. Une fois qu'on est là-haut, on contemple, c'est beau, mais pas seulement.
Eh ben non, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir, le long de votre parcours, suivre des informations. On va vous donner des petits conseils et des infos sur ce que vous voyez et quels sont les arbres, quelle est la nature du paysage que vous allez contempler.
Alors, pour en savoir un peu plus, alors nous sommes en ligne avec Laurence Accalmonti, qui est responsable marketing du site. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Alors, une passerelle de cette taille et de cette longueur, il ne doit pas y en avoir beaucoup en Europe. Moi, ce qui m'intéressait au début, quand on m'a parlé de ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est suffisamment large pour ne pas qu'on se jette, qu'on puisse marcher tranquillement, quoi. C'est confortable. Et il n'y en a pas d'autres, hein. Il n'y en a pas beaucoup d'autres en Europe.
Alors, il y a quelques structures de ce type en Europe. Le chemin des Cimes Alsace, c'est le 10e site de la société allemande EAK. Qui exploite par ailleurs d'autres structures, notamment en Allemagne, en Autriche, en Slovénie, en République tchèque. Mmh. Mais effectivement, comme vous l'avez précisé, c'est un site unique en France qui est situé en Alsace du Nord et qui est ouvert toute l'année. Concernant la largeur de la passerelle, elle se situe entre 1,80 m et 2,50 m de large.
Ah ben ça va, on peut se croiser.
On peut se croiser, tout à fait.
Alors, j'y suis pas allé, mais j'ai l'impression que la passerelle, elle est en bois. Évidemment, il y a des garde-fous de part et d'autre, il y a des bastingages, comme on dit dans les bateaux. Mais j'ai l'impression qu'elle est posée sur la cime des arbres et qu'elle serpente comme ça entre les arbres. C'est à peu près ça ?
Effectivement, le chemin, qui a une longueur de 1050 mètres, se trouve en effet à la cime des arbres. Et ce chemin est constitué d'une passerelle surpilotie, dont la hauteur varie de 5 à 23 mètres. tout au long du parcours, à peu près à trois quarts du parcours, vous allez pouvoir monter à l'intérieur de la tour d'observation, donc de la fameuse tour panoramique, ouais, de 29 mètres de haut et qui vous offre une vue à 360 degrés sur la plaine du Rhin, la forêt noire, les Vosges du Nord et tous les villages environnants.
Et toute la structure est en bois, évidemment, pour respecter le paysage, pour pas qu'il soit dénaturé, etc., etc., évidemment.
Exactement. La société a veillé à préserver un maximum d'arbres. La structure est en bois durable et la couleur de la structure va se fondre de plus en plus dans la nature environnante au fil des mois. Et c'est une chose que nous observons déjà.
Ah oui, parce que là, moi j'avais des photos qui dataient du début de la construction. On voit que le bois est encore très clair, mais il va griser lentement, bien sûr, et ressembler à ses voisins.
Exactement.
Alors, venons-en maintenant à ce que vous appelez les stations d'apprentissage. Gavis en a dit un mot, c'est-à-dire qu'on s'arrête et on apprend quoi, grâce à qui ou avec quoi?
Alors, le chemin est agrémenté de 6 stations d'apprentissage qui permettent de découvrir ou d'en apprendre plus sur la faune et la flore environnante à l'aide de panneaux d'information et de jeux. Alors, concernant les arbres, les traces des animaux, etc. Et à partir de 2022, nous organiserons des visites guidées consacrées à la nature et à l'environnement.
Mmh. Il y a aussi, alors là, vous avez appelé ça des stations d'aventure. C'est-à-dire, on fait quelque chose. Alors, on fait quoi?
Alors, les 3 stations d'aventure permettent aux enfants et aux adultes de jouer aux équilibristes sur des poutres et sur des éléments mobiles et d'appréhender ainsi de façon ludique la nature qui nous entoure.
Sur des poutres? On monte sur des poutres?
Voilà, sur des poutres, sur des éléments mobiles qui sont naturellement sécurisés.
Oui, je vous remercie de me rassurer. On peut tous le faire, quoi. On n'a pas besoin d'avoir fait une école de haute montagne. Non, enfant, comme a dit.
Absolument pas.
Bien. Une visite là, sur cette passerelle qui fait, vous avez dit, un peu plus d'un kilomètre, sans se presser, ça nous demande combien de temps à peu près, avec toutes les informations que l'on recueille au fur et à mesure?
Alors effectivement, ça dépend de chaque visiteur, hein, du rythme qu'il souhaite donner à sa promenade. Donc la visite dure globalement entre 1h15 et 1h30, auquel il faut ajouter la montée et la descente en navette petit train, puisque le site n'est pas accessible directement en voiture.
Ah, ben tant mieux.
Oui, c'est effectivement aussi dans le cadre de la préservation de la nature.
Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'on peut déjeuner sur place. C'est-à-dire qu'on peut rester, se faire un pique-nique?
Alors, vous pouvez pique-niquer aux alentours du chemin des cimes, puisque des tables de pique-nique sont mises à disposition. Mm-hmm. Mais vous pouvez également vous restaurer au sein de notre restaurant, qui est un self-service et qui accueille les visiteurs durant les horaires d'ouverture du site. Et qui propose donc une cuisine régionale ainsi que des collations.
Merci beaucoup, Laurence. Et
merci à vous.
Bravo pour ce site qui est encore une fois unique en France. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Alors, quand on redescend, Monsieur Gavins, on peut dormir dans la région?
Vous l'avez dit, je suis un gourmand. Hein. Donc, on peut manger sur place, bien sûr, mais on peut aussi aller à Drarenbrunn-Birlenbach, au village, et aller manger dans la ferme auberge du Moulin des Sept Fontaines. On est en pleine campagne, on est dans une ferme ancienne. Il y a 2 moulins qui datent du XVIIIe siècle. Et là, vous avez un petit ensemble rustique en bois, encore une fois, c'est séjour nature. Hein.
60... On est dans les Vosges. Hein.
Carrément. Et là, c'est 70 euros la nuit si vous voulez dormir sur place. Et vous pourrez, bien sûr, vous restaurer sur place.
Alors, vous pouvez en savoir un peu plus en consultant vos réseaux sociaux habituels ou alors europe1.fr. On termine avec un récapitulatif de ce que l'on vous a présenté aujourd'hui. Si vous n'êtes pas arrivé, alors voilà ce que vous avez
loupé. Vous avez manqué.
Ouais. Alors.
Alors, vous avez loupé ce vol au cœur de la grotte de la Salamandre dans le Gard.
Non, c'est un vol en plus, c'est vrai. Hein.
C'est ça qui est beau.
On est allongé sur une sorte de planche comme un surf, quoi. Et puis vous êtes bien équipé
dans un aéroplume, un ballon, et vous volez à travers une grotte.
Et voler parce qu'on vous met des ailes.
Ouais,
c'est bien ça.
Vous vous prenez pour Icare depuis tout à l'heure, là, William, vous voulez dans le
non, c'est vrai.
On a fait un voyage en musique, c'était dans le temps aussi, au Mupop à Montluçon dans l'Allier. Nous avons aussi appris à cuisiner des fleurs au cours d'une randonnée botanique.
D'accord.
Et puis, on a marché ensemble sur la cime des arbres qui dominent la forêt noire en Alsace. Et pour aujourd'hui, ça fait un bon bout d'air.
C'était pas mal ça. Pour terminer, une proposition, comme nous le faisons à chaque fois, proposition de lecture qui a un lien avec notre démarche, c'est de mieux vous faire découvrir cette France que l'on ne connaît pas toujours. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, ça s'appelle « Le mystère des 5 terres ». C'est paru aux éditions du Robert, le fameux dictionnaire. C'est une sorte de livre-jeu pour visiter la France autrement. Et c'est réservé aux adultes. Alors, ce sont 5 aventures qui traversent la France, de la Bretagne à la Provence, en passant par l'Est et aussi d'autres régions françaises. française et il faut résoudre un certain nombre d'énigmes, c'est ça qui m'a plu, mm-hmm. dans des univers très différents, c'est varié, c'est plutôt amusant et vous voyagerez bah, en lisant un livre et en allant peut-être sur place pour découvrir les lieux dont on parle.
Quand on est à tendance, on appelle ça
un escape game.
C'est le mot. Mais en livre, quoi.
En livre. Et c'est ça. Et vous pouvez surtout bah, pratiquer et aller sur place après quand vous avez résolu les énigmes. Ah, c'est ça que j'aime bien.
D'accord.
Ça s'appelle le mystère des cinq terres.
Merci beaucoup, monsieur Gavis.
Je vous en prie.
Merci à vous tous, madame, monsieur, de nous avoir écoutés. Merci à Maryse Jacquet, Pierre Samanos, Daniel Moreau, Gavis Clément-Ruiz, déjà nommé, et Morgane Bikilet. Nous nous retrouvons samedi prochain pour découvrir quatre nouveaux sites. Bon après-midi sur Europe 1. Hein.